Radio Okapi.
Bonsoir à tous. Le viol ne peut pas toujours espérer continuer à rester impuni en République démocratique du Congo et c'est sans doute ce message que le tribunal militaire de garnison a voulu faire passer à l'opinion. Hier, cette instance judiciaire a condamné à Bunia en Ituri une vingtaine de prévenus à 20 ans de servitude pénale. Les habitants de Mwenga Centre sont restés dans la stupeur ce samedi car les corps sans vie ont été découverts à Kakolé et au même moment, les notables de ce territoire alertent l'État congolais d'un danger éventuel qui se trame contre le pays à partir de lundi, danger qui selon ces notables menacerait urgemment Lwindi, Mwenga mais aussi Uvira et encore la province du Maniema. Ce journal va recevoir dans un instant quasiment un héros. Une équipe de chirurgiens congolais a réalisé une chirurgie à cœur ouvert sur un homme de 38 ans. L'opération s'est déroulée à l'hôpital du cinquantenaire ici à Kinshasa. Et pour en parler, nous allons recevoir l'un d'eux, le docteur Cédric Moutoualé. Bonsoir à tous. 20 ans de servitude pénale, c'est la peine la plus lourde infligée vendredi à Bunia à plus d'une dizaine de prévenus par le tribunal militaire de garnison. Les condamnés étaient poursuivis pour viol sur mineur. Les détails avec vous, Martial Kiza.
C'est devant des centaines de curieux qui se sont tenus ces audiences en chambre foraine devant les bureaux administratifs du quartier Bakoko à Bunia. À la barre du 7 prévenu, tous des hommes en uniforme. Après 3 jours de débat, le tribunal militaire a reconnu coupable une dizaine de prévenus pour avoir violé et kidnappé des filles mineures dont l'âge varie entre 9 et 16 ans à Mongalo et à Mambasa en avril 2024. Une dizaine de prévenus ont été condamnés par le tribunal militaire de garnison à 20 ans de prison ferme. Un prévenu a été acquitté pour preuve insuffisante et un autre âgé de moins de 18 ans a été renvoyé au tribunal pour enfants. Ces audiences pédagogiques ont bénéficié d'un appui financier de l'ONG Solidarité Féminine pour la paix et le développement intégral SOFEPADI en collaboration avec les fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. C'est dans le cadre de son projet de lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes et aux jeunes filles. Bunia, Martial Kizabiabongo, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, les mesures de sécurité sont renforcées à la prison centrale de Pangbayi à Beni et les conditions de travail de son personnel améliorées. Ceci à la faveur de la réhabilitation du mur de clôture de cette maison carcérale et de la remise du kit informatique par la MONUSCO. Ce vendredi, à la cérémonie officielle marquant la fin des travaux, l'autorité urbaine a salué l'appui de la mission ONU à travers une unité d'appui à l'administration pénitentiaire. Marc Marot pour les précisions.
Plus de 30 mètres de murs écroulés de la clôture de la prison centrale de Kangwaï ont été réhabilités. Selon l'entreprise chargée des travaux, le mur était fragilisé par les eaux de pluie provenant des collines environnantes ainsi que par les eaux d'usage interne dépourvues des canalisations adéquates. Le projet comprenait également un kit solaire pour l'éclairage des cellules et de la clinique pénitentiaire ainsi que des matériels médicaux et informatiques. Le commissaire supérieur Nyofondo Tekodal Jacob, maire de Beni, a salué cet appui de la MONUSCO.
Vous savez que la MONUSCO, c'est notre partenaire de grande taille. On a perdu le mur depuis l'année passée et la MONUSCO nous a venu en aide. Nous n'aurons plus l'hésitation pour que les détenus fouillent de l'autre côté. Ils ont fait aussi la canalisation et ce n'est pas seulement le mur. Il nous a amené encore le matériel informatique où il a doté la mairie, la prison, la justice. C'est quelque chose de très bien.
Financé par les fonds programmatiques de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO, pour un coût d'environ 52 000 dollars américains, ces travaux ont été exécutés par l'entreprise Hope for Development in Africa sur une durée de 4 mois. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Au Congo central, en plus bref, 8 prisonniers du pavillon militaire de la prison de Boma ont réussi à s'évader hier de cette maison carcérale. Ils ont réalisé leur coup après avoir assommé le policier commis à la surveillance de la porte d'entrée. Le directeur de cette prison, qui confirme les faits, indique que ces évadés, dont nombreux sont auteurs de viols qualifiés et vols à main armée, se sont échappés à cause non seulement de la vétusté du mur de ce lieu de détention, mais également à cause de la famine qui fragilise la santé des détenus, car la prison urbaine de Boma n'a pas reçu sa subvention depuis au moins 4 mois. Dans la province du Sud Kivu, les activités socio-économiques étaient timides à Mwenga Centre ce samedi, une situation qui fait suite à une découverte macabre de cadavres humains survenus dans la matinée au village de Kakolé. Selon la société civile, les victimes, 3 au total, ont été tués par des individus armés non identifiés. Le président territorial de la société civile condamne fermement cette détérioration de la situation sécuritaire dans la région et sollicite des enquêtes sérieuses. Lungele Itebo est joint par Ronelly Timbonera.
Les bureaux de coordination de la société civile territoire de Mwenga sollicite au gouvernement congolais de ne pas gérer les conséquences, mais plutôt des causes. 1. Punir les auteurs. 2. Libérer toutes les zones sous occupation de l'AFC M23 pour replacer la paix, la stabilité et la sécurité. Nous sommes à la partie sous contrôle du gouvernement central. Par conséquent, toutes les lois du pays devraient être respectées. 1. La protection des civils et leurs biens. 2. Le respect des droits de l'homme. 3. Renforcement de l'autorité de l'État.
À Mwenga toujours, les notables Banyindou de ce territoire et sa diaspora alertent le chef de l'État sur une situation préoccupante qui menace la paix et la stabilité dans leur contrée et particulièrement dans la chefferie de Luindi. Dans une lettre ouverte aux autorités au sommet de l'État, dont une copie est parvenue ce samedi à Radio Okapi, ces notables font état des agissements qui fragilisent les Wazalendo, qui selon eux protègent l'intégrité territoriale de la RDC. Des initiatives, disent-ils, perçues comme des manœuvres visant à fragiliser la position stratégique de Luindi, bastion de résistance qui risque d'ouvrir la voie à la déstabilisation non seulement de Mwenga, mais également d'Uvira, mais aussi de Maniema. Écoutez à ce sujet le député national Willy Wenga dans ses propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Le verrou du territoire de Mwenga risque d'être cassé en ce moment précis. Depuis hier la nuit, les accrochages opposent les éléments des FARDC, les éléments du seigneur de guerre du Maniema Kabala contre les Wazalendo depuis la chute de Bukavu. Le verrou de Mwenga tient. Plusieurs tentatives de casser ce verrou par le RDF M23 ont échoué. En ce moment précis, il y a effectivement guerre à Mwenga. Si le verrou de Mwenga tombe, ça veut dire en d'autres termes que la route vers Kindu est ouverte. Nous alertons le président de la République, le commandant suprême des forces armées, de tout mettre en œuvre pour mettre hors d'état de nuire ce complot contre la République et contre le pouvoir légalement établi. Voilà le message aux autorités de la République et surtout au chef de l'État, mais également à notre peuple de Mwenga et du Kivu et de la République entière du Congo, pour que les dispositions utiles soient prises dès maintenant pour mettre hors d'état de nuire ces personnes qui trahissent la République.
L'organisation Alerte Congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme, ACDH en sigle, s'indigne et dénonce la procédure d'identification et d'enregistrement des défenseurs des droits humains lancée il y a quelques jours par la CNDH. Selon cette organisation, cette procédure vise notamment les défenseurs de l'environnement et des droits fonciers et limite ainsi donc leur travail. La CDH estime que cette démarche expose les défenseurs à des poursuites et invite la CNDH à suspendre plutôt son initiative. On écoute Olivier Ndolé, avocat et secrétaire exécutif de la CDH.
Comment voulez-vous que tous les Congolais qui devront exercer l'activité pour la défense de l'environnement, la défense par rapport aux droits de leur foncier, d'aller s'enregistrer? Et cette procédure ouvre une porte pour commencer à des procès uniques contre les défenseurs, parce que cette loi-là établit des mécanismes pénaux contre tout défenseur qui ne devra pas se soumettre à ce mécanisme d'enregistrement, alors que c'est juste un mécanisme administratif normalement qui devrait avoir comme conséquence, par exemple, juste la radiation ou l'annulation, mais on y met une clause pénale. Je pense que l'urgence actuelle est de voir cette loi soit beaucoup plus réellement protectrice, parce que sans quoi, je pense qu'on est en train beaucoup plus de viser les défenseurs de l'environnement, des droits fonciers qui sont des milliers dans les villages. Et donc, il est plus qu'urgent que la CNDH puisse suspendre cette procédure, mais aussi d'engager des dialogues avec les défenseurs, surtout de l'environnement, du monde rural.
D'une organisation citoyenne à une autre, l'ONG River Cleanup incite la population quinoise à adopter une politique responsable de gestion des déchets dans son environnement, un appel que cette organisation inscrit dans le cadre de la journée Cleanup Day 2025 visant à soutenir le projet d'assainissement de la ville de Kinshasa. Le ministre provincial de l'environnement, Léon Moulumba, quant à lui, précise qu'il ne s'agit pas seulement de ramasser les déchets, mais également de changer de mentalité et de comprendre que l'assainissement est l'affaire de tous. Un compte-rendu signé Blaise Ndongala.
À travers une opération de nettoyage citoyen, au moins 1255 kilos de déchets ont été collectés dans les quartiers Mombélé, dans la commune de Limété. L'initiative a été menée par l'ONG Roivert Cleanup DRC en collaboration avec les projets Assainir Kinshasa, soutenus par l'ambassade des Pays-Bas et UN Global Compact. Les responsables de Roivert Cleanup DRC a qualifié cette action d'un acte de dignité et de solidarité. Il a encouragé la population à transformer les défis des déchets en opportunités locales, notamment par la valorisation des plastiques en produits utiles.
Les déchets ne sont pas qu'un problème. Ils peuvent devenir une opportunité, créer des emplois, transformer les plastiques en produits utiles.
Pour l'ambassadrice adjointe des Pays-Bas en RDC, l'assainissement des milliers contribue non seulement à l'embellissement de l'environnement, mais également à la prévention des maladies liées au manque d'hygiène.
Nettoyer nos rues, les espaces publics, c'est aussi un geste qui va permettre d'assurer notre santé.
De son côté, le ministre provincial de l'environnement de Kinshasa a appelé les citoyens à adopter de bons gestes au quotidien et à éveiller leur conscience collective face aux enjeux environnementaux. Il convient de rappeler que la mauvaise gestion des déchets favorise la pollution de l'air, la propagation des maladies et représente une urgence environnementale majeure.
Économie à présent, le ministre de l'économie justement annonce que la demande en produits pétroliers dans la zone ouest de la République démocratique du Congo a connu une hausse spectaculaire. Moukoko Samba attribue cette hausse aux réformes engagées dans le secteur pétrolier, notamment la lutte contre la fraude et la contrebande, la baisse des prix à la pompe et l'assainissement macroéconomique. Blaise Makassi nous éclaire mieux sur cette problématique, rendue ici par Ronelly Timbonera.
L'Associr est une entreprise d'économie mixte dont l'État congolais détient 50% des parts et qui joue un rôle essentiel dans l'approvisionnement de produits pétroliers dans la zone ouest. Avec la baisse du litre du carburant à la pompe, Daniel Moukoko Samba veut se rassurer du bon fonctionnement et de la viabilité de l'outil principal d'approvisionnement en produits pétroliers du pays et inspecter le fonctionnement de la chaîne des transports et des distributions. Il a pour ce faire visité quelques compartiments, notamment le port pétrolier, en passant par les laboratoires d'analyse, les parcs de réservoirs pour terminer au dépôt de la Sogaz. Daniel Moukoko.
Bien, la visite d'aujourd'hui à Moanda, c'était essentiellement pour que je me rende compte du travail que fait l'Associr dans l'approvisionnement du pays en produits pétroliers et des perspectives d'avenir. Le gouvernement appuie beaucoup cette société qui joue un rôle capital pour que le pays ne manque pas de produits pétroliers.
Face aux difficultés opérationnelles rencontrées par les sociétés pétrolières, le gouvernement a débloqué un fonds en faveur de la Société congolaise des industries des raffinages. Ce soutien a permis la réhabilitation de remorqueurs Kinimi et Castor et la location d'un bateau-citerne pour garantir la continuité de l'approvisionnement. André Nkoté, le directeur du siège d'exploitation, a profité de l'occasion pour remercier les ministères pour son appui et accompagnement.
Actualité internationale.
L'Organisation météorologique mondiale, OMM en sigle, tire la sonnette d'alarme. Les ressources en eau de la planète sont de plus en plus menacées par le changement climatique avec des conséquences majeures sur les populations et leurs moyens de subsistance. Dans un nouveau rapport publié jeudi dernier, l'agence onusienne indique que 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée en 175 années, avec une température moyenne dépassant de 1,55 degrés Celsius les niveaux pré-industriels. Ce réchauffement accentue l'évaporation et intensifie les précipitations, provoquant une multiplication des événements extrêmes.
L'invité.
Notre invité dans ce journal est Dr Cédric Moutoualé. Il fait partie de l'équipe des chirurgiens congolais qui a pratiqué avec succès une chirurgie à cœur ouvert sur un homme de 38 ans. L'opération s'est déroulée à l'hôpital du cinquantenaire ici à Kinshasa. Dr Cédric Moutoualé revient avec nous sur cette réalisation. Il s'entretient avec Blaise Chindani.
Bonjour docteur Cédric Moutoualé.
Bonjour.
Pouvez-vous nous raconter brièvement l'opération que vous avez réalisée?
Merci beaucoup de l'opportunité que vous me donnez. C'était une intervention assez complexe, mais qui s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Donc, comme je l'ai dit, c'est un jeune homme qui n'avait 38 ans à peine, donc il est très jeune, qui a reconnu un AVC sur son lieu de travail. Et c'est dans le bilan de son AVC qu'on a découvert que le problème était d'origine cardiaque. Il faut dire que 80% des AVC ont une origine cardiovasculaire. Et lui, c'était une origine cardiaque. C'est ce qu'on appelle une masse intra dans l'oreillette gauche qu'on appelle les myxomes. Il est venu via l'intermédiaire du professeur Alphonse Nvoima, qui est, il faut le dire, mon maître, qui a décidé de nous l'envoyer, de nous le référer. Et nous, ici, nous l'avons pris en charge. Quand il est venu, le problème était d'abord neurologique parce qu'il devait recouvrir de son AVC. Donc il a d'abord bénéficié d'une préparation neurologique et surtout d'un bilan complet pour son problème cardiaque. Et on a montré qu'il n'y avait que le problème au niveau de l'oreillette gauche, c'est-à-dire de cette masse qui est friable, qui peut parfois emboliser, c'est-à-dire qui peut parfois se détacher en petits morceaux et aller se nicher, malheureusement souvent dans le cerveau. C'est assez courant. Et c'est comme ça qu'il a été programmé. Une fois que nous avons eu tout le matériel, et il faut d'abord le dire, tant que le matériel n'est pas disponible ou quand il manque ne serait-ce un fil, nous ne prenons pas en charge nos malades. Non, nous prenons en charge des malades avec tout le matériel disponible sur place avant de pousser le malade au bloc opératoire. Et au bloc opératoire, c'est toute une équipe. Je ne suis pas le seul. Il y a le professeur Alphonse Nvoima, qui est le professeur de chirurgie thoracique et l'unique professeur de chirurgie thoracique et cardiovasculaire du pays, qui travaille avec nous actuellement, qui est en déplacement. Il y a toute l'équipe d'anesthésie et réanimation, notamment le docteur Ritesh, que vraiment je tiens ici à féliciter parce qu'il a été vraiment l'homme à tout faire, la chenille ouvrière de toute cette architecture. Et ensuite, nous l'avons prise au bloc opératoire et nous l'avons branchée sous ce qu'on appelle une circulation extracorporelle.
Dites-nous, docteur, c'est quoi une circulation extracorporelle?
Ça, c'est la particularité que nous avons. C'est une machine qui permet de dériver le sang du corps humain et qui fait office du cœur et des poumons le temps que nous puissions intervenir. Ce qui a été utilisé, il y a très peu de techniciens au Congo, il n'y en a quasiment pas, il faut dire la vérité. Et nous avons donc eu l'expertise d'un expert qui vient de l'Inde, un Indien, qui est très capable et très compétent en la matière, qui nous a permis de réaliser cette intervention. Nous avons retiré la masse en totalité. Aucun fragment n'était laissé, je peux vous assurer. Nous avons refermé le cœur et le cœur est reparti comme c'était prévu. Et le patient a été sorti du bloc opératoire. Il a été extubé au bloc opératoire. Pour vous dire que l'intervention s'est bien passée, 2 heures après, il était extubé, pouvait respirer, il n'avait plus de tuyaux. Il a été acheminé aux soins intensifs. Et puis, les suites opératoires chez lui étaient très simples.
Voilà, dites-nous docteur, comment alors accompagnez-vous humainement vos patients après une telle opération?
Humainement, nous devons déjà être à l'écoute du malade. C'est le malade qui vient et qui soumet ses problèmes et nous, nous l'écoutons, nous lui parlons et surtout nous essayons de répondre à ses questions. Parce que vous comprenez que Le patient a d'innombrables questions. La famille en a encore plus. Il faut donc trouver le moyen de parler et d'expliquer aux malades. La première des choses, c'est nous instaurons un climat de confiance. Je suis disponible ici tous les jours, y compris le samedi, ce qui fait que, quel que soit le problème, le patient sait où me trouver. C'est différent des autres qui doivent chercher le médecin. Ah non, je suis disponible H24 ici dans cet hôpital.
Docteur, dites-nous, après une chirurgie si délicate comme ça, vous donnez combien de temps au patient pour qu'il reprenne ses activités?
Le temps de récupération est fonction du problème initial. Si vous avez un patient qui, dès le départ, est très fatigué parce qu'il a un problème cardiaque qui est grave et qui n'a pas été résolu, c'est un peu normal qu'il récupère plus difficilement. Mais chez un patient, celui-ci, en l'occurrence, est beaucoup plus jeune. C'est l'AVC qui était pour nous le vrai problème. Vous comprenez? C'est l'AVC qui l'a diminué fortement parce que, à 38 ans, devenir hémiplégique, pour info, le patient, quand je l'ai vu la première fois, ne parlait pas. On appelle ça une aphasie de Broca. C'est-à-dire que le patient peut comprendre ce qu'on lui dit. Mais à cause de l'AVC et dans l'incapacité d'émettre le moindre son. Vous comprenez que ce n'est pas un problème cardiaque, c'est un problème neurologique.
Pour terminer, quel message aimeriez-vous faire passer au public sur la chirurgie cardiaque aujourd'hui?
Le message est simple, la chirurgie cardiaque est une réalité. Nous avons ici, dans notre hôpital, la possibilité de le faire et de la pratiquer de manière tout à fait continuelle.
Docteur Cédric Moutoualé, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.